Depuis le 17 novembre, du plus petit village du monde rural à la plus grande ville, nous nous sommes soulevés contre cette société profondément violente, injuste et insupportable. Nous ne nous laisserons plus faire. Nous nous révoltons contre la vie chère, la précarité et la misère.
Salut à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux Gilets jaunes et à leurs revendications démocratiques. Alors vous l'aurez constaté, nous ne sommes pas dans notre décor habituel, les studios d'Arrêt sur Image sont occupés par un autre tournage aussi. Nous nous replions à Montreuil, ici dans la librairie des éditions Libertalia, qui nous font l'amitié de bien vouloir accueillir ce tournage hors les murs, et nous les en remercions vivement. Alors pour cette émission spéciale, deux invités, deux chercheurs. Antoine Chollet, vous êtes philosophe et nos abonnés vous connaissent un petit peu puisque vous avez été reçu par Manuel Cervera Marzal sur Hors Série pour un entretien consacré à votre ouvrage « Défendre la démocratie directe ». Et Samuel Hayat, nos abonnés ne vous connaissent pas forcément encore, en tout cas c'est la première fois que nous vous recevons. Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques, vous êtes plus spécialisé sur les questions de la démocratie représentative, les mouvements populaires du 19e siècle et particulièrement la révolution de 1848. Vous êtes également l'auteur d'un article, paru sur votre blog le 24 décembre dernier, article intitulé « Les gilets jaunes et la question démocratique ». On est donc en plein dans le cœur du sujet qui nous occupera aujourd'hui. Il aura fallu trois petites semaines aux Gilets jaunes pour convertir leur simple revendication de pouvoir d'achat en une demande beaucoup plus profonde de démocratie. Dès le 15 décembre, la revendication du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, émerge comme clé de voûte du mouvement, le révélant comme mouvement politique autant que comme mouvement social. Et la réponse du gouvernement, sous la forme des flashballs mutilant d'innombrables manifestants, sous la forme d'arrestation préventive et de garde à vue arbitraire, aura confirmé les Gilets jaunes dans leur intuition. L'espace dans lequel se déploie ce mouvement ne répond pas ou ne répond plus aux exigences de la démocratie. Et c'est vers ces exigences que les Gilets jaunes se tournent, exigences de la démocratie, qu'ils mettent en œuvre très concrètement dans leur mouvement. Sur les ronds-points qui tiennent encore, dans les maisons du peuple, les comités de quartier où les Gilets jaunes parviennent à se rassembler, les assemblées font un travail toujours très soucieux de démocratie, veillant scrupuleusement à une circulation de la parole, respectueuse des normes d'égalité, respectueuse de faire entendre les expressions minoritaires. Les représentants doivent être dûment mandatés et quiconque s'autoproclame porte-parole sans avoir été mandaté se voit bientôt disqualifié par l'ensemble du mouvement. Bref, les Gilets jaunes semblent devenus les plus exigeants des démocrates. Le gouvernement a bien compris que c'était sur ce terrain, celui de la démocratie, qu'il fallait s'illustrer. Le fameux grand débat où Macron se met en scène en infatigable rhéteur a bien sûr cette vocation, même si personne n'est dupe de la mascarade. En somme, c'est désormais une sorte de compétition entre deux formes de la démocratie qui structure l'affrontement entre Gilets jaunes et gouvernement. Côté gouvernement, bien sûr, c'est la démocratie représentative qui se revendique comme seule légitime. Et côté Gilets jaunes, eh bien, c'est la revendication de démocratie directe. Et cette évolution des Gilets jaunes inspire quelques regrets, voire quelques inquiétudes du côté de leurs observateurs pourtant bienveillants. Devenus démocrates, les Gilets jaunes ne seraient plus guère émeutiers, si tant est qu'ils l'aient jamais été, aux grandes dames des insurrectionnalistes. Et puis surtout, leur souci inusable de procédures toujours plus démocratiques les ferait devenir des citoyennistes, se réclamant d'un peuple uni et homogène, ignorant de ses propres contradictions. Alors le citoyennisme, c'est une notion que vous mobilisez, Samuel Hayat, dans votre article « Les Gilets jaunes et la question démocratique », une notion que vous mobilisez pour parler des Gilets jaunes. Alors je pense qu'il faut commencer par là, essayer de donner un petit peu des éléments de définition du citoyennisme. C'est quoi? Et en quoi est-ce que cette notion vous paraît pertinente pour caractériser l'activité politique des Gilets jaunes?
C'est pas un mot très, enfin c'est pas un concept forcément très joli, ni très bien travaillé par la science politique. Hein. C'est plutôt un concept un peu ad hoc pour rendre compte de ce qui me semble être une insistance très très grande dans le mouvement des Gilets jaunes sur l'action de la citoyenneté, sur la revendication d'une idée en fait qui est assez simple, qui est que les décisions doivent revenir aux citoyens et aux citoyennes par opposition à ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire une monopolisation de la décision politique par des professionnels de la politique, par des élus.
Mmh.
Il m'a semblé que le terme de citoyennisme, en mettant l'accent sur cette revendication citoyenne, bon, ça pouvait vouloir dire quelque chose. Concrètement, ça renvoie au fait qu'on trouve chez les Gilets jaunes le refus, en gros, de deux choses, à mon sens. Premièrement, c'est ce que vous disiez en introduction, premièrement, le refus de la professionnalisation de la politique ou le refus de certaines formes, alors pas nécessairement de la démocratie représentative, mais en tout cas de certains aspects de la démocratie représentative, le fait de voir l'émergence de personnes qui font des carrières politiques, qui vivent de la politique, qui sont des professionnels au sens plein du terme, des professionnels de la politique. Et face à ça, il y a la demande que les citoyens et les citoyennes puissent partager du pouvoir. Et puis une deuxième chose qui est liée, c'est le refus de l'idée que la politique, ça soit l'endroit d'un affrontement, en gros, entre des partis, avec des programmes, des idéologies différentes, au profit d'une idée plutôt que ce qui devrait dominer, c'est les citoyens, mais alors pas juste de dire qu'il ne faut pas que ce soit les professionnels, mais aussi des citoyens qui seraient plus liés à l'intérêt général. C'est-à-dire qu'ils auraient une vision où ils ne vont pas défendre l'intérêt d'un parti, ils ne vont pas défendre un programme, ils vont défendre l'intérêt général. Et c'est un peu la conjonction de ces deux choses-là, refus de la politique professionnelle et refus de la politique partisane, disons, qui il me semble, est présent chez les Gilets jaunes. Et on voit bien que alors là, on est dans une longue tradition, hein, on en parlera peut-être, mais c'est quelque chose de très fort déjà chez Rousseau, hein, le refus en même temps de la professionnalisation de la politique, le refus de la représentation, l'idée que les citoyens doivent faire leurs lois eux-mêmes, et le refus des partis, le refus de la politique partisane, l'idée de l'intérêt général qui émerge un peu de ces individus citoyens qui décident ensemble. Et ça a aussi un sens, hein, du point de vue, pour le dire très simplement, du point de vue un peu socio-historique, c'est-à-dire le champ politique s'est effectivement constitué dans ce qu'on appelle les démocraties, s'est effectivement constitué autour d'une scène qui est la scène d'un affrontement entre des partis qui visent à obtenir le pouvoir par une compétition pacifique. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'avoir les voix des gens. Et pour les avoir, ils leur proposent des visions du monde, des idéologies, des programmes. On est vraiment dans ce que Pierre Bourdieu a appelé le champ politique, hein, cette idée d'une compétition entre élites, avec des gros guillemets, entre professionnels de la politique, pour obtenir les voix des gens en proposant différentes idéologies. Et ça, on voit que c'est refusé tout à fait radicalement, à mon sens, par le mouvement des Gilets jaunes.
Alors, Antoine Chollet, en tant que spécialiste de la démocratie directe, est-ce que la notion de citoyennisme, c'est une notion qui fait sens pour vous, avec des dimensions un petit peu péjoratives, on le sent? Comment vous en parlez de cette notion-là?
Moi, je vais reprendre ce qu'a dit Samuel Hayat sur cette question de la conflictualité, parce qu'en effet, on observe... Mais je parle sous contrôle, évidemment, puisque je n'ai pas suivi de très près, ni en sociologue, ni même en observateur très averti, le mouvement des Gilets jaunes. Mais on observe un refus du conflit, c'est-à-dire ce que moi j'appellerais une dépolitisation de la démocratie. L'idée que la démocratie, c'est en effet un peuple uni, homogène, qui dirait quelque chose de manière à peu près unanime, contre, alors ça peut être les élites, ça peut être l'étranger, ça peut être toute une série de catégories. Et où, alors la revendication du référendum est amusante, c'est que le référendum, c'est le principe inverse. Le référendum, c'est la mise en scène du conflit en permanence. Et on a souvent, du système politique suisse, cette image un peu idyllique et très, très consensuelle. Les quatre dimanches de votation, comme on les appelle en Suisse par année, sont une mise en scène du conflit, parfois extrêmement violente, sur les retraites, sur la fiscalité, sur les accords internationaux, sur les relations avec l'Union européenne. Et ce n'est absolument pas cette idée d'un peuple unifié. Mais en effet, je pense que, enfin, ce que j'ai pu voir ou lire de certains Gilets jaunes, puisqu'il faut toujours faire attention lorsqu'on en parle, ils sont très divers entre eux, c'était l'idée qu'en effet le référendum permettrait simplement de donner la voix au peuple. Et ça, il faut quand même le dire sans vouloir faire de point Godwin tout de suite, ça c'est la conception de la démocratie chez Carl Schmitt. Pour Carl Schmitt, la démocratie elle est plébiscitaire. C'est un peuple unifié qui acclame un leader ou qui acclame un parti ou qui acclame une opinion. Donc la démocratie c'est exactement l'inverse. C'est la politisation maximale de l'ensemble de la société en fait et en reconnaissant cette dimension conflictuelle sur à peu près tous les sujets. Et véritablement, le référendum suscite ce genre de choses, puisque en particulier, vous n'avez pas lancé de référendum si vous êtes sûr de vous prendre 80 ou 90% des votants dans la figure. Donc vous allez le lancer sur un sujet contentieux, évidemment. Vous n'avez pas lancé un référendum sur un sujet qui fait l'unanimité. Donc là, sur ce plan de l'analyse, je serais tout à fait d'accord. Maintenant, de manière un peu plus générale, moi, ce que j'ai aussi entendu dans le mouvement des Gilets jaunes, c'était cette idée souvent répétée que nous ne vivons pas en démocratie. Mmh. Et là, à côté de la dépolitisation de la démocratie, je pense qu'il y a une vision anhistorique de la démocratie. Ce sont des gens qui se fondent sur quelques discours de Madison ou de Sieyès ou enfin des pères fondateurs de la Constitution et de la République américaine ou de la République française, et qui disent « ces gens-là n'étaient pas démocrates et donc nous ne vivons pas en démocratie ». Et en réalité, ils oublient les 2 siècles d'histoire entre deux. C'est-à-dire, il y a eu des mouvements démocrates, il y a eu des mouvements de démocratisation des sociétés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, ou en Angleterre, en Suisse même, en Italie et ailleurs. Et tous ces mouvements ont conduit à des espaces de démocratisation. Par exemple, la mise à l'écart de l'idée du suffrage universel est très inquiétante. Tout le mouvement féministe, tout le mouvement ouvrier se sont battus pour la mise en place d'un véritable suffrage universel. C'est-à-dire l'extension du suffrage, c'est le cas aussi de tous les mouvements afro-américains aux États-Unis, évidemment. Et cette question-là est absolument déterminante. On ne peut pas comme ça l'écarter d'un revers de main en disant nous vivrions dans des régimes absolument non démocratiques. Il y a une histoire de la démocratie, il faut absolument la reconnaître.
Ouais. Alors je voudrais revenir sur cette histoire du refus de la contradiction, de la conflictualité. C'est cette idée que les Gilets jaunes se poseraient en citoyennistes en ceci qu'ils se réclameraient d'un peuple uni et homogène. Je me demande si c'est pas un petit peu une analyse qu'on plaque de l'extérieur et qui ne correspond pas forcément à leur manière de se décrire eux-mêmes. Je m'appuie ici sur une analyse portée par un sociologue qui s'appelle Michalis Lianos, qui travaille sur les Gilets jaunes présents sur les Champs-Élysées samedi après samedi et qui fait un travail d'enquête en recueillant énormément leurs paroles pour essayer d'observer comment ils décrivent eux-mêmes leurs propres gestes politiques. Or, Michalis Lianos parle à leur sujet de la solidarité dans le désaccord, c'est-à-dire que les Gilets jaunes ne se présentent pas eux-mêmes comme un peuple uni et homogène, mais comme étant profondément dissemblables entre eux, mais ayant décidé de maintenir une solidarité dans le désaccord, ce qui me paraît du coup contredire un petit peu cette analyse en termes de citoyennisme, c'est-à-dire c'est pas qu'ils se croient tous d'accord entre eux, c'est qu'ils s'assument comme discordants les uns avec les autres, mais considèrent qu'il y a un objectif supérieur qui doit leur faire surmonter la discorde, comme on a vu par exemple sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu un travail de composition du dissemblable, hein. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes sait très bien qu'elle ne rassemble pas des gens homogènes entre eux, il y a différentes histoires politiques, mais qui décident de faire corps ensemble contre un adversaire. Donc à la ZAD c'était la question du projet d'aéroport, et parmi les Gilets jaunes, l'adversaire c'est le gouvernement actuel, et donc il s'agit non pas de nier notre contradiction mais de la surmonter. Est-ce qu'on peut pas accepter ce regard qu'ils portent sur eux-mêmes et du coup modifier un petit peu notre jugement sur ce qu'on leur prête comme illusion?
Non, moi je pense pas du tout que ça soit une illusion ou que ça soit une critique ou qu'il y ait quoi que ce soit de cet ordre-là dans le fait de parler de citoyennisme. Là il faut distinguer pas mal de choses. Personne ne dit que c'est un mouvement qui serait homogène ou bien qui serait composé de personnes qui pensent tous pareil ou toutes pareilles. Pas du tout.
Non, au contraire.
Au contraire. La question, c'est pas ça.
Oui.
La question, c'est de dire comment est-ce que sont éventuellement travaillés... Mais tout le monde sait évidemment qu'il y a des désaccords. La question, c'est comment est-ce qu'ils sont travaillés et quelle est la vision de la politique qui est portée.
Ouais.
Moi, je ne sais pas si c'est une dépolitisation de la démocratie qui est portée, mais en tout cas, c'est une vision de ce qu'il faut faire, de ce à quoi il faut arriver, qui est une forme de démocratie, non pas qui ne connaît pas le conflit, mais qui ne connaît pas ce conflit, qui ne connaît pas le conflit partisan et qui ne doit pas le connaître. Donc, il y a 2 choses différentes. Il y a la question de comment est-ce qu'on s'organise entre personnes dissemblables et où il y a toute une série de choses qui me semblent en elles-mêmes très intéressantes, qui relèvent de la production de l'unité. Comment est-ce qu'on fait pour faire de l'unité avec du dissemblable ? et qui est quelque chose qui n'est pas spécifique aux gilets jaunes, avec une grande différence dans les gilets jaunes, une spécificité dans ce qu'il y a de tout le temps là, c'est qu'il faut produire de l'unité dans un mouvement social avec du dissemblable. Oui. Ce qui est nouveau, c'est que c'est du dissemblable, c'est de l'unité à produire avec du dissemblable qui est un peu pas exactement le même que celui à la Notre-Dame-des-Landes, ouais. Puisqu'il s'agit notamment d'accueillir des personnes qui sont d'extrême droite, qui ont un vote d'extrême droite.
Accueillir.
Ou en tout cas, il faut qu'ils en fassent partie. Et ça, c'est quelque chose où il s'agit donc de produire de l'unité de l'ensemble des citoyens et des citoyennes, et pas seulement des citoyens et des citoyennes mobilisés dans, on va dire, l'espace traditionnel des mobilisations de gauche. Mmh. Vous avez eu ces dernières décennies des mobilisations de gauche qui peuvent être assez ouvertes, des mobilisations de droite qui peuvent être ouvertes à toutes les droites, mais des mobilisations qui, à ce point, essayent de faire l'unité sur l'ensemble du spectre politique, et non pas de le faire sur une base qui pourrait être syndicale, par exemple, ou associative, mais de le faire sur une base qui est vraiment de parler du gouvernement, de parler de la politique et de demander à se ressaisir, c'est quelque chose de tout à fait inédit. Mmh. Donc ça, c'est la première façon de faire jouer le consensus, de faire jouer l'unité, de produire de l'unité. Et le deuxième, ce que je disais sur la visée. Ce qui est nouveau, c'est cette idée d'une politique, ce qui est nouveau, en tout cas qui me semble assez radical et assez intéressant, et aussi assez problématique ou gênant, mais c'est par rapport au cadre de la politique instituée, c'est cette idée qu'on veut aller vers une politique où les partis n'ont plus de part, où les partis, la politique partisane n'ont plus de part. Ce que disait récemment Maxime Nicole, qui est un gilet jaune, qui, il faut remplacer la politique par de la gestion. Et cette idée-là, elle n'est pas... Alors, on peut dire tout de suite, bah oui, voilà, c'est néolibéralisme. En fait, non. En fait, c'est pour ça que je ne serais pas entièrement d'accord avec cette idée de politisation de la démocratie. C'est une autre conception de la politique. Une conception de la politique qui, en fait, n'a jamais entièrement disparu, que le triomphe de la démocratie représentative a étouffé, un peu invisibilisé. Mais c'est une conception de la politique comme gestion directe par les citoyens qui, en fait, n'a jamais entièrement disparu. Mais on voit bien en quoi, là, il ne s'agit pas du tout de dire ils sont dans des illusions ou quoi que ce soit. Non, ils portent un projet qui est différent.
Mais moi, je n'arrive pas à comprendre, peut-être vous allez pouvoir m'éclairer là-dessus, en quoi la démocratie directe, dont ils se veulent les expérimentateurs et peut-être les redécouvreurs, en quoi, forcément, elle anéantit le clivage partisan. Pourquoi rentrer dans des logiques de démocratie directe, ça abolit nos différences partisanes.
Ça, j'ai du mal à comprendre. Ça, c'est le discours des Gilets jaunes, c'est ce que Samuel vient de dire. C'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement, et en effet, il y a une haine des partis politiques qui est très, très, très notable, et qui distingue peut-être la France de certains autres pays européens, parce qu'on voit bien que cette haine ou cette aversion est très élevée. Et sur ce point-là, on est dans une situation qui est compliquée à analyser, parce qu'il faut bien admettre d'une part que les partis politiques français, les vieux partis politiques français, ne se sont pas comportés de manière très exemplaire ces dernières années ou ces dernières décennies. On peut les comparer, je ne sais pas, aux partis politiques grecs ou à certains partis politiques espagnols aussi qui ont des résultats électoraux qui sont ceux des grands partis traditionnels français. Et en même temps, d'une certaine manière, même si cette phrase est difficile à dire aujourd'hui en France, la mise à l'écart de tout parti politique, c'est-à-dire de toute idée qu'il y a des divisions à l'intérieur de la société et que ces divisions ne sont pas que du théâtre. Parce que moi, c'est ce que j'entends souvent. Ouais. Les gens nous disent, oui, mais le conflit politique, ce qu'on voit à la télé, en fait, c'est un faux conflit. C'est du théâtre, les gens sont juste, c'est des copains, ils vont boire après un verre, etc. Et en réalité, ils sont d'accord sur l'essentiel. Et on est obligé de leur donner un peu raison sur certaines choses, notamment sur une partie de la politique économique ou de la politique sociale qui a été menée en France depuis les années 90 en tout cas. Mais en même temps, on ne peut pas leur donner complètement raison. C'est-à-dire que ces oppositions, l'opposition entre la gauche et la droite, ce n'est pas du théâtre. L'opposition entre la gauche et la droite, elle a un véritable ancrage historique, un véritable ancrage social, économique, etc. Et derrière cela, ça signifie aussi que le clivage politique fondamental, ce n'est pas peuple-élite, quoi qu'en pense Chantal Mouffe et quelques autres personnes, mais il y a d'autres clivages qui sont, et notamment le clivage entre la gauche et la droite, évidemment, mais ça peut aussi être des clivages plus fins. Entre les droites, il y a des clivages. Et lorsqu'on parlait de présence de l'extrême droite sur les ronds-points, dans les manifestations des Gilets jaunes, on se retrouve face à un autre problème, c'est-à-dire que défendre la démocratie en intégrant l'extrême droite, C'est un oxymore, c'est complètement absurde. L'extrême droite n'a jamais défendu la démocratie. L'extrême droite est, disons, par principe et traditionnellement, contre la démocratie. Elle est contre la démocratie à l'intérieur de ses organisations, évidemment, mais elle est aussi contre la démocratie à l'extérieur de l'organisation, dans l'organisation générale de la société. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu en Suisse depuis longtemps, puisque un des partis qui s'est fait le chantre de la démocratie directe, c'est l'UDC, donc le parti de droite nationaliste, conservatrice, très à droite, spécialement depuis les années 80, et qui là aussi a fait une espèce d'OPA sur la démocratie directe, avec cette idée précisément que le peuple, dans le peuple, on trouvait le bon sens de la politique qui allait en l'occurrence dans leur sens. Alors après un certain nombre de défaites référendaires, disons, ils ont un peu changé de position, sur certains résultats, mais il y a véritablement cette OPA de l'extrême droite sur la démocratie qui pose de très sérieux problèmes, et il faudra aborder d'ailleurs un autre thème là-dessus, c'est que la démocratie directe leur semble, et c'est la raison pour laquelle la Suisse sert d'exemple, leur semble prémunir de l'adhésion à l'Union européenne. Ils prennent toujours l'exemple de la Suisse, évidemment, ils prennent l'exemple de la Norvège, ils prennent l'exemple du référendum de 2005 où la population française, les citoyens et les citoyennes françaises avaient dit non, de l'exemple néerlandais, etc. Il y a aussi quelques exemples en Irlande. Et c'est un des points nodaux, un des points sur lesquels se cristallise le conflit actuel, la question de l'Union européenne. Ouais. Ça, il faudra y revenir.
Alors oui, plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il faut nuancer un petit peu sur cette idée d'un accueil de l'extrême droite qui se ferait comme dans du beurre au sein des Gilets jaunes. Il faut faire attention parce qu'il me semble quand même qu'il y a énormément d'occurrences dans des manifs, dans des assemblées où l'extrême droite se voit parfois violemment exfiltrée. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent où on voit des militants d'extrême droite refouler des manifestations. On voit bien que sur les textes qui remontent des Gilets jaunes, les revendications de type extrême droitière sont en général... disparaissent. Donc, il semblerait quand même que ce soit un mouvement politique qui travaille à marginaliser l'expression d'extrême droite. Donc, c'est pas non plus un accueil. Non, apparemment, Samuel n'est pas d'accord.
Non, non.
C'est pas un accueil si, je dirais, comme ça, ouvert, welcome, venez avec nous, on va faire de la politique ensemble. Il me semble quand même que la dimension antidémocratique de l'extrême droite est perçue par les Gilets jaunes eux-mêmes qui font du coup un travail...
Mais en sachant qu'il y a des fractions de l'extrême droite qui, de manière très cynique, utilisent le discours démocratiste, d'une certaine manière, pour s'intégrer, y compris en mettant de côté toute une série d'autres positionnements. Et là-dessus, c'est une question tout à fait centrale. Et la question derrière, c'est celle de la base sociale de la démocratie, en réalité. C'est, la base sociale de la démocratie, ce n'est pas l'intégralité d'une population. Il y a toujours, dans n'importe quel pays, une petite partie de la population qui est contre la démocratie, contre les principes démocratiques, contre l'égalité, contre la liberté, contre l'autonomie, contre l'émancipation, etc. Et il faut que cette part reste aussi faible que possible, évidemment. On ne peut pas avoir une démocratie qui est soutenue par 51% d'une population contre 49% d'antidémocrates. Là, généralement, ça se passe relativement mal. Mais en sachant que ce n'est pas les 100%. Les populations européennes ne sont pas 100% démocrates, ça j'en suis tout à fait convaincu. Et donc, il faut être particulièrement attentif à ces germes d'antidémocratisme qui existent dans tous les pays.
Samuel.
Bon, après, il faudra revenir sur la question de pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose d'incompatible entre la démocratie directe et les partis. Parce que c'était la question que
tout
vous,
à fait.
Vous posiez.
Tout à fait, je m'apprêtais à revenir,
avant,
mais comme il y a une parenthèse d'extrême droite qui s'ouvre,
explorons-la. Mais quand même, on va faire
sur
cette histoire d'extrême droite.
D'accord.
À un moment donné, pour moi, dire que ce mouvement accueille des gens qui votent à l'extrême droite, ça n'est pas une critique.
D'accord.
C'est pas du tout une critique. Et par ailleurs, je ne pense pas du tout que ces électeurs et ces électrices du Front National, en tout cas dans le cas du Front National, qui représentent une part très significative de la population votante, soient contre la démocratie. Je pense qu'aujourd'hui, des antidémocrates, des personnes qui sont opposées aux valeurs de la démocratie, on en trouve dans beaucoup d'endroits, et on en trouve beaucoup à l'extrême centre. C'est-à-dire que l'attaque de cette démocratie partisane, il ne faut pas l'oublier, c'est... avant tout, ça ne veut pas dire grand-chose avant tout, mais il y a une conjonction extrêmement forte autour du rejet de la démocratie partisane entre des personnes et des partis d'extrême droite, des personnes et des partis qui se statuent traditionnellement à l'extrême gauche avec la France insoumise qui met beaucoup en avant ce fait d'aller au-delà du clivage gauche-droite, même si ça reste un mouvement profondément ancré dans la gauche et dans ses thèmes. Et puis évidemment, il y a Macron. et il y a le macronisme, et il y a l'extrême-centre, qui, reprenant une longue tradition de dépolitisation de la décision politique, nous explique qu'au fond, les idéologies, c'est fini, que maintenant, il y a les pragmatiques les illusions, et les illusions, on les trouve... Avec... Bon. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de dire ? Non pas que c'est les méchants gens d'extrême droite qui arrivent sur les ronds-points et sur les gilets jaunes, il s'agit de dire que c'est un mouvement qui, justement, il y a du dissemblable, il y a des gens, et personne n'est exclu a priori. Ceux qui sont exclus a priori, et ceux qui se font rejeter dans les manifestations, c'est les militants et les militantes d'extrême droite.
C'est ça.
C'est-à-dire, oui, vraiment, des groupes. Et alors là, j'ai aucun souci reconnaître qu'il y a un travail, évidemment, de la part des Gilets jaunes pour empêcher toute une série de formes de récupération par des groupuscules, ou par des partis extrémistes d'extrême droite. Mais ça ne veut pas dire, et loin de là, et heureusement d'une certaine manière, parce que ça serait tout le mouvement des Gilets jaunes qui perdrait un peu de sa substance et de son scandale et de sa spécificité. Il ne s'agit pas du tout de dire que les gens d'extrême droite ne sont pas bienvenus, que les gens qui votent à l'extrême droite ne sont pas bienvenus dans le mouvement.
Oui,
c'est pas du tout ça. Et la question de pourquoi est-ce que les thèmes classiques de l'extrême droite ne viennent pas, elle n'est pas uniquement du fait que les gens d'extrême droite, ils essayent de les porter et qu'ils n'y arrivent pas. C'est aussi des choix de ne pas les mettre en avant pour réussir à faire de l'unité. Et cette volonté de faire de l'unité avec le dissemblable et par-delà les divisions selon les votes des uns, des unes, des autres, c'est quelque chose de très intéressant, qui n'est pas entièrement nouveau, parce qu'il y a toute une longue tradition de cette politique non-partisane qui, en fait, a toujours continué à exister. Alors, il faudrait voir exactement comment, mais même dans certaines interprétations du syndicalisme, il y a un syndicalisme où la question politique ne se pose pas. C'est pas juste qu'on n'est pas dans les partis, c'est que la question politique ne doit pas se poser. Donc voilà, il y a des choses à voir là-dessus. Peut-être on finit sur ça.
Moi, je voudrais revenir sur cette question de la relation entre les procédures de démocratie directe et la disparition des antagonismes partisans. Ouais. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas en quoi le fait d'être plongé dans une assemblée délibérante, parce qu'en fait, c'est ça l'expérience de la démocratie directe, la première expérience qu'on fait, c'est qu'on est plongé dans une assemblée délibérante. En quoi cette expérience-là me dépouillerait des analyses anticapitalistes que je porte, par exemple, à quoi sert la délibération dans ces assemblées, sinon à porter une vision qui va être en contradiction avec d'autres visions? Pourquoi est-ce qu'on délibère pendant des heures dans les assemblées? Précisément parce qu'on porte des visions qu'on exprime et qu'on confronte. Donc, en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi on attribue toujours aux procédures de la démocratie directe un phénomène de désidéologisation, en quelque sorte, alors que
c'est l'inverse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a un fantasme de la démocratie directe chez ses adversaires, comme chez ses partisans, de ceux qui n'ont jamais essayé la démocratie directe, d'une certaine manière, d'unité. Et là, désolé de revenir encore une fois à l'extrême droite, c'est le vieux clivage entre le pays légal et le pays réel. Et vous avez une partie des discours qui vous disent, dans le pays réel, on est, on est pour la peine de mort, on est contre les étrangers, on est ceci, etc. Ce qui est absurde, à mon sens, de dire cela, mais il y a cette idée-là qui conduit à dire, laissons la parole au peuple et on verra la vraie position populaire émerger.
Pardon, mais alors, c'est aussi la position des gouvernants, si on donne la parole au peuple, les opposants
disent la même chose. Et justement, l'exercice effectif de la démocratie directe, que ce soit dans les États fédérés américains qui la connaissent et qui l'utilisent énormément, au niveau national et au niveau cantonal en Suisse, montre exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'on voit des divisions qui se reproduisent. Et alors, si possible, parce que sinon ça pose quelques problèmes, les divisions ne doivent pas être toujours les mêmes. Si on avait toujours une division entre Suisse francophone et Suisse germanophone, ça conduirait sans doute à quelques petits soucis. Mais généralement, ce n'est pas cette division-là qui apparaît. Ça peut être des divisions de ville-campagne, des divisions entre canton catholique et canton protestant. On peut imaginer toute une série de,
de clivage. Donc ça produit du conflit, ça produit du dissensus. Et la démocratie directe, de ce point de vue-là, est démocratique. Et justement, ouais. c'est pas la conception schmittienne de la démocratie. On a un peuple unifié et homogène qui acclame quelqu'un. Ouais. Ça, c'est le plébiscite. Et d'une certaine manière, c'est le référendum de la Ve République qui veut ça. C'est-à-dire un plébiscite pour un chef qui va au vote uniquement s'il est sûr de gagner. Et la pratique du référendum d'initiative populaire, lorsqu'on doit rassembler des signatures, conduit précisément au système inverse.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire l'hypothèse que l'expérience du coup des Gilets jaunes, non pas les dépolitise, mais les politise au contraire ? Puisque, en fait, rentrer dans la délibération et les procédures de la démocratie directe, ça va obliger à se positionner par rapport à d'autres visions. Donc, on pourrait faire le pari que ce mouvement politise et non pas dépolitise ceux qui s'y engagent.
Le problème des mots « politise » et « dépolitise », c'est que on a tendance à dire « politise, c'est bien », et « dépolitise, c'est pas bien ». Et « politise », c'est par rapport à une vision souvent qui n'est pas très claire de ce qu'on appelle la politique. À quelle politique ça les politise ? Est-ce que, généralement, ce qu'on dit « politiser », ça va vouloir dire quand même, si on enlève la question de « bien ou pas bien », ça va vouloir dire l'acquisition règles du champ politique. Et les règles du champ politique, c'est les règles de la compétition entre les partis. Personne
c'est
ne dit...
C'est pas ça que je pensais, moi.
Voilà.
Mais, d'accord.
Mais exactement. Ouais. Mais donc, c'est-à-dire que soit on a une vision améliorative, ça veut dire quoi, politiser ? On veut dire, en fait, conscientiser.
Oui, c'est ça.
Et conscientiser, ça n'est pas nécessairement du tout conscientiser sous des formes de la politique. Évidemment que le mouvement, il conscientise les gens. Je veux dire, c'est moche conscientiser, mais évidemment que le mouvement, il met quelque chose en mouvement, c'est parce que c'est un mouvement. Mais là, la question que vous posiez, c'est pas celle-là, c'est celle du type. C'est pas est-ce qu'il va, et pour moi, c'est même pas celle de est-ce qu'il va y avoir des divisions dans une démocratie directe ou dans un système autogestionnaire. C'est de quel type de division il va s'agir. Et la chose que j'essaye là de mettre en avant, c'est de dire que ce qui va disparaître, ce qui disparaît dans la démocratie directe, c'est les divisions partisanes. Pourquoi ? Parce que les partis, historiquement, et par exemple les partis, ça veut dire aussi gauche et droite, puisque gauche et droite, c'est un principe de classement de professionnels de la politique qui suppose un parlement, qui s'organisent de manière par des divisions internes. Les divisions en partis, les partis politiques, se sont construits pour la conquête du pouvoir par les urnes. Et on est donc héritier et héritière de toute une tradition où ce qu'on appelle la division partisane, pourquoi est-ce qu'on se met à avoir des programmes ? Pourquoi est-ce qu'on se met à avoir plutôt que quelques valeurs et quelques mots-clés ? Voilà, on fait des programmes. Ensuite, on crée des partis dans lesquels on va chercher des adhérents et des adhérentes à qui on va inculquer une idéologie, etc. C'est pourquoi ? C'est pour la conquête du pouvoir. C'est des choses qu'on ne voit pas du tout. Si on prend d'autres mouvements de masse comme le syndicalisme, on n'a pas du tout l'équivalent d'une construction de type partisan. Et là, je veux dire vraiment de type de construction partisane, construction idéologique au sein du syndicalisme. L'idéologie, telle qu'elle s'est construite, telle qu'elle est venue se brancher sur la démocratie, elle l'a fait par les partis politiques. Et les partis politiques sont, à mon avis, intrinsèquement liés à la compétition pour le pouvoir. Après, ça ne veut pas dire, tout l'enjeu c'est de dire, bon, d'accord, mais ça, ce monde-là, c'est le vieux monde, on veut qu'il disparaisse, ou en tout cas, on peut comprendre la volonté qu'ils disparaissent, puisque maintenant, les divisions qui viennent de ce monde des professionnels de la politique, elles n'ont plus de sens. La question, c'est quel autre type de division va pouvoir émerger dans une situation où la politique est déprofessionnalisée. Mais imaginez que ça va être les mêmes, que gauche et droite vont continuer à avoir un sens, et que les oppositions vont être sur, pareil, des projets, des programmes, etc. C'est, à mon avis, manquer le lien sociologique entre compétition pour le pouvoir, création de partis de masse et division idéologique.
Oui, Antoine Chollet, vous voulez
répondre ? Oui, sur le rapport entre système partisan et démocratie directe, là, les deux grands exemples que l'on a, c'est-à-dire la Suisse et les États fédérés américains, montrent l'inverse. Enfin, vont dans deux directions complètement différentes. D'accord. Les États-Unis donnent raison à Samuel Hayat, puisque les campagnes référendaires et d'initiatives aux États-Unis se font à l'écart des partis politiques et à l'écart des gouvernements aussi. Le gouverneur et l'administration et les grands partis ont d'une certaine manière l'interdiction d'intervenir dans les campagnes. C'est quelque chose qui se passe, entre guillemets, au niveau des citoyens, mais qui se passe assez largement au niveau de certains lobbies, que ce soit le lobby des armes, le lobby pour la peine de mort, etc. Et puis ensuite, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire la démocratie directe est essentiellement utilisée par les partis politiques et les syndicats également, ou les grandes associations, mais qui sont liées à l'un ou l'autre des partis politiques. Et il y a une articulation très étroite, tout en sachant qu'il arrive parfois, c'est assez rare, mais il arrive parfois qu'une campagne citoyenniste, disons, de lancée par des citoyens qui ne sont pas du tout encartés, qui sont complètement à l'écart des partis, puisse lancer une initiative populaire pour changer la Constitution et parfois même réussissent à gagner cette initiative. Donc là ça dépend vraiment de la mise en place et du mécanisme, mais aussi de l'histoire, tout simplement, puisque les mécanismes sont les mêmes aux États-Unis et en Suisse, et ils ont conduit à des pratiques complètement différentes. Sur les partis politiques, moi, je ferais peut-être une... Enfin, ça paraît un peu bête de dire ça comme ça, mais il y a parti et parti. C'est-à-dire les grands partis politiques anglais, par exemple, les Whigs et les Tories au XIXe siècle, qui en fait sont la matrice d'à peu près tous les partis politiques dans le monde, n'ont pas grand-chose à voir avec ce que le mouvement ouvrier a créé comme parti. C'est-à-dire on a d'un côté des réseaux de solidarité plus ou moins légaux, disons, où la politique est exactement la même, que ce soit les Whigs ou les Tories qui gagnent, mais en revanche, c'est un autre personnel qui prend le pouvoir, et ensuite les autres les remplacent, etc. Ce qui est d'une certaine manière un peu encore le fonctionnement de la démocratie anglaise. Et puis, de l'autre côté, lorsque le mouvement ouvrier s'est créé et a constitué des syndicats, alors avec des histoires très différentes entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre et d'autres pays, des syndicats, puis ensuite des partis politiques, c'est dans un horizon complètement différent. Et ça me permet de faire une remarque sur la démocratie qui me paraît être centrale dans l'affaire qui nous occupe, c'est que la démocratie, il faut la vouloir pour elle-même, mais aussi pour faire quelque chose. C'est une phrase que Castoriadis rappelait sans arrêt, je veux la liberté pour la liberté, mais aussi pour en faire quelque chose. Il faut une perspective d'émancipation avec la démocratie. Et vouloir la démocratie simplement pour la démocratie, pour que le peuple puisse intervenir de temps en temps dans les affaires politiques, c'est précisément une vision dépolitisée de la démocratie. Il faut l'articuler à un projet émancipateur, et ça a été le projet de tous les mouvements de démocratisation. J'ai parlé du mouvement féministe, on peut parler des mouvements afro-américains aux États-Unis ou du mouvement ouvrier de manière générale, ce sont des mouvements d'émancipation qui ont un horizon d'égalité, d'autonomie, de liberté à la fois individuelle et collective, etc. etc. Et cela, dans certains des discours démocratistes, si on peut les appeler comme ça, on ne le voit pas. C'est-à-dire on a l'impression que la démocratie est une fin en elle-même et que surgiront les décisions qui surgiront des votes majoritaires. Et donc l'articulation est absolument indispensable. Et là-dessus, je pense que la référence la plus intéressante reste Rosa Luxembourg. Lorsqu'elle parle de démocratie, Rosa Luxembourg dit, évidemment, la bourgeoisie prétend être démocrate, accepte les libertés, etc., quand ça va bien, et elle s'en débarrassera au premier problème venu. Elle écrit ça à la fin du 19e siècle, donc on a bien vu qu'elle avait raison, et en 14, et ensuite dans les années 30. Et donc, pour Rosa Luxembourg, la démocratie est intimement liée précisément au mouvement ouvrier. Ouais. Et avec tout ce qui a éclos autour du mouvement ouvrier, je pense que c'est une question qu'on doit garder en tête, y compris dans la discussion. Alors évidemment, on entre un petit peu perpendiculairement par rapport au mouvement des Gilets jaunes qui précisément est construit sur des représentations inverses. Si on va leur dire la démocratie, c'est le socialisme et le mouvement ouvrier, mais évidemment, ils vont sauter au plafond en disant « mais pas du tout, la démocratie, c'est le rassemblement aussi large que possible de toutes les catégories de la population, des petits artisans, militaires, en passant par les gendarmes et avec deux, trois autres personnes ».
Oui, enfin, il faut rappeler quand même que la revendication démocratique, elle vient dans le mouvement des Gilets jaunes à l'issue d'un processus, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas en mouvement sur une revendication démocratique. Il rentre en mouvement pour dénoncer une injustice sociale, fiscale. Et se confrontant, je pense, à une forme de surdité ou de répression et de violence face à cette revendication, la revendication se métamorphose pour devenir une revendication de démocratie. Mais ce n'est pas la démocratie comme fin en soi qui serait le déclencheur de la mobilisation, me semble-t-il. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un mouvement qui s'interroge sur la cause de son oppression et de sa répression. C'est tout simplement des gens qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils vivent des situations d'injustice sociale. et pourquoi en plus ils sont réprimés très violemment quand ils le dénoncent, c'est dans ce moment-là que la revendication démocratique vient, et du coup je ne crois pas qu'elle soit prise pour une espèce d'objectif, une fin en soi, juste une technique démocratique, mais plutôt parce qu'ils sont dans une analyse des causes profondes de l'oppression, avec l'hypothèse que travailler sur la cause, la cause des causes, ça va nous emmener à l'endroit du pacte qui nous unit les uns avec les autres et qui rédige les règles de la soi-disant démocratie. Donc voilà, il me semble que dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas un fétiche comme ça ou un hochet, la démocratie, on la veut comme ça. C'est dans le cadre d'un processus où ils réfléchissent sur leur oppression et leur répression qu'ils en arrivent à poser la question de la démocratie.
Je suis entièrement d'accord. Et je pense que là, on est au cœur du citoyennisme, justement.
Ah.
C'est d'imaginer, et c'est là que se fait la rupture avec ce qui a été la tradition du mouvement social, du mouvement ouvrier ces 150 dernières années, c'est d'imaginer que la cause des causes, quand on remonte, c'est la question institutionnelle, c'est la question démocratique. C'est-à-dire que, moi, je ne sais pas pourquoi ils en arrivent au RIC, ça après, est-ce que... Il y a forcément ce que vous dites là sur la confrontation avec la police et sur la confrontation avec l'État. Il y a d'autres choses, à mon avis, la volonté de faire unité. Mais
oui, certainement.
En tout cas, il y a cette idée qu'en remontant les causes, on en arrive au système démocratique.
Ouais.
Alors que tout le principe du mouvement socialiste et ouvrier, ce sur quoi il se constitue, c'est sur l'idée que la cause des causes, c'est la domination. Et que la cause des causes, c'est la domination sociale. C'est-à-dire que ce ne sont pas des mécanismes institutionnels. Ça, c'est la grande, on va dire, alors là, je ramène sur des choses sur lesquelles je travaille, notamment de la révolution de 1848. En février 48, il y a une révolution. Le suffrage dit universel, en fait, uniquement masculin, est adopté. L'Assemblée qui est élue, alors plein de gens s'attendent à ce que ça soit une déferlante d'une Assemblée populaire. Alors, en fait, l'Assemblée qui est élue, elle est composée par principalement les élites sociales. Et cette Assemblée, la première Assemblée de l'histoire vraiment élue à un suffrage dit universel,
masculin,
cette Assemblée, deux mois après, elle fait la plus grande répression d'un mouvement populaire qui ait eu lieu jusque-là à Paris, à savoir, elle fait des milliers de morts. C'est-à-dire que la première Assemblée républicaine, elle tue des milliers d'ouvriers dans Paris qui pourtant se soulèvent pour défendre la République. Et donc face à ça, et c'est vraiment le début de on va dire, le marxisme comme stratégie, face à ça, émerge l'idée que, en fait, le problème, ça n'est pas la démocratie, ça n'est pas les institutions, que c'est pas ça, que c'est la domination. Et que la domination, elle doit s'attaquer par, non pas des moyens politiques, ou pas de manière privilégiée des moyens politiques, si on entend par là des moyens de transformation des institutions, mais par, alors, soit une politisation de masse, par la création de partis de masse qui vont transformer les ouvriers qui vont y rentrer, soit par la voie syndicale, là aussi de masse, des ouvriers qui vont construire ensemble un appareil autonome qui va pouvoir renverser l'État. Mais dans les deux cas, il y a cette idée que ce qui est au cœur, c'est la domination sociale. Et cette idée de la domination sociale, elle naît, la domination sociale, c'est-à-dire vraiment comme mécanisme caché par lesquels les personnes sont dépossédées, y compris même de leur capacité à vouloir authentiquement ce qu'ils veulent, à connaître les mécanismes d'oppression dans lesquels ils sont pris, cette idée-là de la domination et de sa critique est totalement absente du mouvement des Gilets jaunes. Et là encore, ce n'est pas une critique au sens de dire « Ah, ils sont dans l'illusion, etc. » Pas du tout. Ça crée des choses, le fait que ce soit absent. Ouais. Parce que dès qu'on se met à parler de la domination, de quoi on va parler? On ne peut pas juste parler de justice fiscale. On va devoir parler de la question de classe, donc des rapports au patronat, qui sont des choses qui vont diviser. On va devoir parler de la question de la domination raciale. Et donc de la question de qu'est-ce qu'on fait dans une société raciste lorsqu'on décide de faire un mouvement. On va devoir parler de la domination de genre. et donc de la question de l'homophobie, de toute une série de questions qui, dès qu'on touche à la domination, là, on ne peut plus avoir de consensus. Parce que dès qu'on touche à la domination, il y a des dominants et des dominés, et il n'y a pas juste Macron qui doit démissionner et le peuple.
Ouais. Dans cette affaire de démocratie directe, il y a l'idée chez certains que c'est une réforme, ce que j'appelle moi une réforme rédemptrice, c'est-à-dire une réforme qui permettrait d'obtenir tout le reste gratuitement, pratiquement, et ça n'arrive jamais. Il n'y a pas de procédure qui permet de faire ça, ni le référendum, ni le tirage au sort, ni le mandat impératif, enfin, on peut prendre toute la liste. Donc le référendum ne peut évidemment pas tout, mais il peut quand même des choses. Parce qu'il y a aussi le discours inverse de dire que le référendum ne sert à rien, de toute façon c'est juste la mesure du rapport de force monétaire ou économique ou sociale, pas du tout. Et là aussi on a des exemples dans l'histoire, encore une fois à la fois des États-Unis et de la Suisse, qui montrent qu'il y a eu des conquêtes sociales obtenues par référendum qui n'auraient pas été permises ou qui seraient intervenues plus tard sans doute si la démocratie directe n'avait pas existé. Mais en même temps, si la démocratie directe permettait de se débarrasser des partis, des élites, du capitalisme et de tout ce qu'on veut, bon, la Suisse n'aurait pas tout à fait la tête qu'elle a actuellement, alors que c'est un pays conservateur, c'est un pays très libéral économiquement. Et donc, les référendums et la démocratie directe, qui pourtant est portée à un point assez élevé en Suisse, y compris au niveau national, où la souveraineté existe encore dans une assez large mesure. Donc, il y aurait des réformes tout à fait radicales qui pourraient être faites en Suisse. Ça n'a jamais pu passer par référendum, précisément parce que le rapport de force sociale et économique n'est pas prêt en Suisse, que la Suisse reste un pays extrêmement conservateur, où la droite fait 70% des voix bon an mal an. Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus minimiser le déficit démocratique qui existe en France aujourd'hui, et y compris par rapport à d'autres systèmes représentatifs tout à fait classiques, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis ou l'Allemagne, par exemple, sans même parler de la Suisse. Il y a un problème de présidentialisme. Il n'y a plus qu'une seule élection aujourd'hui en France tous les 5 ans. Tout est complètement organisé par rapport à cette seule élection. Le contre-pouvoir du Parlement n'existe pratiquement plus. Le contre-pouvoir de la justice, qui n'a jamais été très, très fort en France, n'existe pas bien, enfin, il n'est pas suffisamment puissant aujourd'hui. Et il n'y a pas non plus de contre-pouvoir dans les entités, disons, en dessous de l'État central, les régions, les départements et même les mairies, puisque une partie des maires, précisément, se rangeait pratiquement du côté des Gilets jaunes pour dire qu'il y avait un problème de ce point de vue-là. Donc il y a bien sûr des réformes à faire dans le système politique français. Tous les présidents assurent qu'ils vont le faire. Je suis encore retombé sur le rapport Balladur qui avait été commandé par Sarkozy en 2007 ou 2008, si je me souviens bien, qui faisait toute une série de propositions qui étaient assez intéressantes, hein, de redonner du pouvoir au Parlement, une indépendance du Parlement par rapport au gouvernement, etc. etc. Le fait de rendre le gouvernement comptable devant le Parlement également, donc vraiment des choses un peu basiques du système parlementaire. Et ceci, généralement, est mis de côté assez rapidement. Et donc, ça, c'est ce qui m'intéresse, moi, dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est que ce mouvement ressemble beaucoup au type de mouvement qui a permis de mettre en place la démocratie directe et en Suisse et aux États-Unis. Alors en Suisse, c'était le mouvement démocrate, ça ne veut pas dire grand-chose, mais disons que c'est des espèces de proto-socialistes, et aux États-Unis, c'est le mouvement populiste. Donc c'est ce vaste mouvement dans le sud des États-Unis, dans l'ouest des États-Unis, qui, à la fin du 19e siècle, demande la mise en place du référendum, de l'initiative de la révocation des élus, qui ne l'obtient pas immédiatement, mais ça se met en place à partir du début du 20e siècle. Et c'est aussi un mouvement extrêmement divers, qui part un peu dans tous les sens, avec des petits paysans, une partie des ouvriers, mais pas tellement, plus de trois autres catégories. Les femmes sont présentes aussi dans le mouvement populiste, puisqu'elles n'ont pas encore le droit de vote aux États-Unis, donc elles mettent en avant la revendication du suffrage féminin. Et ce sont des choses qui ont été mises en place dans les décennies suivantes. Et ce que je peux souhaiter, moi, vu de l'extérieur, évidemment, c'est que le mouvement des Gilets jaunes puisse permettre ce type-là de démocratisation des institutions, qui est tout à fait importante en France aujourd'hui, déterminante si le système ne veut pas complètement se casser la figure.
Alors justement, pour penser cette sorte d'irrigation démocratique du territoire, d'obtenir un peu plus de démocratie, je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Samuel Hayat, à propos de la révolution de 48, la mise en place d'une assemblée et qui en fait tire du coup sur la foule. Le premier geste d'une assemblée soi-disant démocratiquement élue, ça va être de tirer sur la foule. Mais précisément, ça vient à nouveau incriminer le phénomène de la démocratie représentative. C'est les logiques de la représentation qui produisent ça. Or, tout le 19e est travaillé par la lutte entre le projet projet de la démocratie représentative et puis le projet, ce qu'on appelle la sociale, je crois, la volonté d'exercer vraiment une démocratie directe, mais pas seulement avec le RIC, parce que là, du coup, on a tendance un peu à subsumer la démocratie directe dans le fantasme du RIC, et voilà, c'est juste ça. Alors que tel que, si j'ai bien compris, c'est revendiqué tout au long du 19e siècle, et tel qu'aujourd'hui c'est pensé également dans le mouvement des Gilets jaunes, il ne s'agit pas juste d'avoir le RIC comme une baguette magique, il s'agit proposer vraiment un travail d'irrigation du territoire par des assemblées délibératives et souveraines locales à l'échelle du canton. En fait, on revient à la constitution de l'an 1 de 1793, je crois, qui proposait un modèle institutionnel qui me paraît davantage protéger la population de la capture du pouvoir par le capital, appelons-le les choses comme ça pour aller vite. Vous disiez tout à l'heure, la question c'est la domination, et notamment la domination économique évidemment. Si ça part dans les mécanismes de la démocratie représentative, effectivement, l'institutionnel ne peut rien. Mais si on raisonne vraiment sur un projet de démocratie directe, dans le sens du projet tel qu'il était formulé donc par la Constitution de l'an 1 du 24 juin 1793, petite incise historique, avec des assemblées primaires réparties sur tout le territoire national au niveau des cantons, assemblées qui sont délibérantes, ayant la capacité de se prononcer sur les lois, donc une loi peut être abrogée si un certain pourcentage d'assemblées locales votent dans ce sens, avec des procédures révocatoires. À l'époque, on les appelle les procédures de rappel. On désigne des mandataires et non pas des représentants. Donc, vous voyez, là, il y a un modèle.
Et ça, c'est l'invention du référendum. La constitution de l'an 1, alors le projet Girondin qui n'a jamais été mis en place et le projet Montagnard, c'est l'invention du référendum, de l'idée qu'une loi passée par une assemblée peut être contestée.
Voilà.
Alors là, par les assemblées primaires, parce qu'on n'avait pas encore le système des signatures. Et c'est ce projet-là qui va être transféré en Suisse et qui sera mis en place à partir des années 1830. Donc c'est une invention française, le référendum. Mmh. Le référendum constitutionnel est inventé aux États-Unis, c'est inventé au Massachusetts à la fin des années 1770. Le référendum d'abrogation des lois, disons, ou le référendum facultatif, comme on l'appelle en Suisse, est une invention française.
Ouais. Alors moi, mon point, c'était juste de dire que finalement, ce qui se passe en 48, ça révèle la faillite de la démocratie représentative, mais pas forcément celle de la démocratie directe, pour proposer une émancipation.
En fait, ça révèle les deux. C'est-à-dire que... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en 1848, apparaît, s'invente, selon un processus qui prend, en fait, qui va assez vite, mais autour du mot « république », il y a toute une série de débats qui se font, et où, comme vous le disiez, viennent à s'inventer immédiatement, à s'opposer, à se séparer, deux conceptions de la République, une idée de la République formelle, de la République représentative, si vous voulez.
Celle qu'on appelle la République libérale, du coup.
La République libérale, pourquoi pas. Et puis la République démocratique et sociale. La République démocratique sociale, ce qui va après tout simplement la sociale.
La sociale.
C'est une idée, alors, non pas du tout de démocratie directe, mais... beaucoup plus, par contre, appuyé sur ce que vous disiez, sur la Constitution de 1793, c'est-à-dire, non pas sur une démocratie directe stricte, mais sur l'idée que les personnes élues sont les serviteurs du peuple.
C'est ça.
Et que la parole finale doit toujours revenir au peuple. Mmh. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élus, ça veut dire qu'ils sont en permanence sous contrôle, etc. Ça, c'est pour l'aspect démocratique. Puis pour l'aspect social, c'est ce que disait Antoine Chollet à l'instant, c'est de dire que une république ne se définit pas par des procédures, mais aussi par une finalité.
Ouais.
Et que la république, elle se définit par le fait qu'elle doit aller vers l'émancipation. Et vers l'émancipation, c'est quoi? C'est notamment, c'est toute une série de choses, mais à l'époque, en tout premier lieu, la fin du salariat. L'idée qu'il n'est pas possible d'avoir une république authentique dans laquelle vous avez des personnes qui, dans la sphère économique, dirigent et d'autres qui sont dirigées. Et donc, c'est toute la formidable idée de l'association ouvrière, que ce qu'il faut, c'est remplacer les structures dans lesquelles vous avez un patron et des ouvriers par des ouvriers associés qui prennent en décision de manière démocratique et commune les choses. Donc, ça, c'est un peu l'opposition qui se met en place. Maintenant, sur la question des leçons qu'on tire de l'échec, dire que c'est juste la démocratie représentative et pas l'échec aussi de la démocratie directe, c'est quand même passer à côté, à mon avis, du fait que les éléments de démocratie directe qui ont pu commencer à exister à ce moment-là, et notamment les clubs, hein, vous savez, à Paris, on a, à Paris, ça commence à Paris, mais en fait, ça prend partout, des centaines de clubs où se réunissent des portions significatives de la population. À Paris, c'est 10% de la population à peu près.
Ah ouais, 10%,
qui va, ouais, c'est énorme, qui va dans les clubs le soir pour débattre, etc. Or, tout cet appareil-là formidable de mobilisation citoyenne échoue radicalement. Échoue à faire passer les candidats qu'elle essaye de mettre en avant. Échoue à exercer un contrôle sur l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il y a une manifestation qui est faite le 15 mai 1848. C'est un échec extrêmement grave qui aboutit à la décapitation du mouvement. C'est-à-dire, aucune résistance. Ouais. C'est-à-dire que, c'est là encore, Marx, la lutte des classes en France, puis le 18 Brumaire du Napoléon Bonaparte, qui se pose cette question. Comment expliquer cet échec? Pourquoi est-ce qu'on a un peuple qui est debout, les armes à la main, grosse différence avec la situation actuelle, ils sont tous armés. Ils sont armés, ils sont debout, ils sont organisés dans des clubs, et ils se font balayer, détruire. Et voilà, la réponse marxiste, c'est de reprendre un peu ce qui s'est inventé avant lui, hein, qui est la tradition socialiste, de dire c'est parce qu'en fait la domination sociale, elle passe pas par là. Et à mon sens, ça ne veut pas dire évidemment que du point de vue des républicains démocratiques et sociaux, la constitution de 1793 est bien préférable.
Oui, mais elle ne suffit pas à s'émanciper de la domination. Ceci dit, 150 ans de syndicats, de lutte ouvrière et tout ça n'ont pas donné non plus des résultats absolument spectaculaires.
La solution des partis de masse et les grands syndicats, les deux exemples, c'est 1914 en Allemagne, plus important parti social-démocrate d'Europe et avec des syndicats qui ont des millions de membres qui votent les crédits de guerre pratiquement comme un seul homme. Et puis l'exemple des années 30 en Allemagne aussi, où on a deux partis de masse, le Parti communiste et le Parti social-démocrate, qui en réalité passent leur temps à se tirer dessus et qui ne voient pas le péril fasciste qui apparaît et qui les lamine véritablement en quelques mois ou quelques années. Mais en quelques mois, c'est réglé. Donc évidemment, le problème se pose de la même manière des deux côtés. J'ajoute aussi qu'il y a eu un débat très intéressant au sein de la social-démocratie européenne à la fin du 19e siècle sur la démocratie directe, précisément sur les référendums. Kautsky est complètement opposé à cette affaire en disant « vous ferez que donner le pouvoir ben, comme sous le Second Empire aux paysans et à toutes les catégories qui en réalité sont violemment opposées aux idéaux socialistes ». Et puis toute une série d'autres personnes, notamment des fourriéristes, enfin toute une série d'acteurs qui au contraire pensent qu'il est possible d'avancer avec ces mécanismes de démocratie directe. Et on l'a vu tout de même dans quelques régions suisses où les premières lois sur les fabriques, donc les lois sur le travail, en réalité, limitation du travail de nuit, le travail des femmes, le travail des enfants, etc., ont été passées par des procédures de démocratie directe, y compris dans un canton, en assemblée populaire. Donc, avec des personnes qui votaient à main levée, les ouvriers qui ont voté à main levée la loi sur les fabriques contre les patrons qui étaient dans la même assemblée. Donc c'est quelque chose qui est possible.
Ouais. Bien sûr. Et mais c'est-à-dire que si on regarde un peu les progrès sociaux, disons ce qui va dans le sens de l'émancipation, etc., bon, l'histoire donne pas de mode d'emploi clair, puisque vous avez parfois des procédures de démocratie directe, référendaire, procédures référendaires, qui permettent de donner des résultats. Vous avez parfois, ça passe par des partis de masse. Souvent, je pense, ça passe par l'action syndicale et l'action droite. Et puis, parfois, par des mouvements qui ne sont ni politiques ni syndicaux, mais comme le féminisme, qui est quand même le mouvement féministe qui fait accomplir une révolution qui n'a pas beaucoup d'équivalent dans l'histoire. En passant par quoi? En passant par d'autres canaux, alors de la contestation et des mouvements de masse et des femmes qui prennent des risques, qui vont en prison, etc. Mais aussi par toute une série de batailles culturelles. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on peut à la fois, à mon sens, vouloir hériter d'une histoire comme celle de la République démocratique et sociale, qui inclut donc l'idée d'une démocratisation radicale de la démocratie, sans se dire que ça va être la clé.
Oui.
Et ce qui peut sembler être, pour revenir au mouvement des Gilets jaunes, un tournant sur lequel il faut s'interroger, mais qui n'est pas fait, qui n'est pas total, qui n'est pas complet, c'est le moment où le RIC devient, mais en fait je pense que c'est même plus le cas, où devient l'élément principal parce qu'au fond, c'est celui autour duquel on se retrouve. À la fois, ça permet de la puissance du mouvement, à la fois, ça bloque sur certaines choses. Et il ne s'agit pas ici de donner des leçons, parce que ce n'est pas à nous de les donner, c'est les événements qui vont nous fournir des éléments à interprétation. Mais il faut se demander sur le... est-ce que ce RIC, qu'est-ce qui permet et qu'est-ce qui l'empêche quand il devient une revendication principale?
Oui. Alors, je pense qu'il ne faut pas trop penser que les Gilets jaunes eux-mêmes fétichisent le RIC
oui,
comme cette baguette magique. Là, je m'appuie à nouveau sur l'enquête que Michel Istlianos a proposée. C'est une enquête assez copieuse, même si elle est faite sur le vif, donc il n'a pas eu le temps encore, évidemment, de dépouiller son travail. Mais c'est quand même le deuxième volet qui fait paraître sur lundi matin. Je vous recommande, du coup, la lecture donc, du deuxième volet de cette enquête. Ça s'appelle « Une politique expérientielle », puisque l'hypothèse qu'il fait, c'est que c'est dans l'expérience que tout se forge une conscience politique. Juste pour vous faire entendre, la manière dont les Gilets jaunes pensent leur propre position politique, voici ce que Lianos observe. Il observe chez les Gilets jaunes des Champs-Élysées l'émergence d'une représentation très dense qui commence à s'organiser en tant que philosophie sociale et politique. Vous voyez, il y a un effet de système, c'est pas juste la baguette magique, quoi. Ils parlent clairement, ils au pluriel, hein, les Gilets jaunes, ils parlent clairement et de façon très précise et habile de l'architecture du système sociopolitique qui limite de fait les changements substantiels. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les leçons du 19e, tout ce qu'on vient de traverser comme grande défaite et tout ça, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une sorte d'imaginaire héritier de tout ça. En fait, ils le savent qu'il n'y a pas de baguette magique. Leur expérience les conduit vers une conscience profonde, une critique calme et systémique qui renforce leur conviction qu'il n'est pas suffisant de changer les dirigeants. Il faut un nouveau rapport du peuple au pouvoir. C'est ce qu'ils entendent par 6e République. Donc, voilà, c'est pour dire... En fait, tout ce qu'on est en train de dégrossir là, de la voie ouvrière, syndicale, mais la voie de la démocratie directe, en fait, nulle part il y a une solution clé en main qui permet d'obtenir une émancipation presque automatique. J'ai l'impression que précisément c'est fort de ce savoir-là, plus ou moins conscientisé et formulé de manière savante, c'est fort de ce savoir-là qu'ils sont en ce moment dans une recherche et exploration. Et bien sûr, il faut tenir face à la répression, face à la disqualification par les élites. Donc, on fait un affichage un peu homogène. On est pour le RIC, on est tous ensemble. Mais ça, c'est le petit effet. On communique vers l'extérieur, vous voyez. Mais nous, à l'intérieur, on se lance dans une grande... Peut-être, ça se trouve, ça va être une usine à gaz, hein, on ne sait pas. Mais un très, très long processus de recherche des voies d'émancipation qui ne se prononce pas encore sur son propre débouché. Politique. En tout cas, une chose est certaine, la démission de Macron ne paraît plus la solution pareil, clé en main, quoi. Ils ont compris que c'est pas en changeant de mec qu'on va changer de politique. Voilà, donc il me semble qu'il y a une maturation et une maturité politique dans le mouvement qui se fait jour. Je ne sais pas si ça correspond à vos impressions ou si ces analyses de Lianos viennent en contradiction avec vos propres...
Moi, j'ai pas, étant donné que je n'ai pas été sur place, je ne peux pas affirmer ou confirmer cela. Il faudrait simplement, dans ce que vous avez lu, savoir ce qu'ils entendent par pouvoir.
Ouais.
S'il faut changer le pouvoir, c'est changer la 5e République en mettant une assemblée plus démocratique, ouais, avec du suffrage proportionnel ou autre. Ben là, on est exactement dans ce qu'on définissait sur les procédures. C'est-à-dire qu'il faut changer les procédures et ça permettra d'avoir quelque chose qui sera sans doute meilleur. Hein. J'en suis parfaitement, parfaitement d'accord. Enfin, je suis d'accord avec cette analyse. Il serait mieux, par exemple, que les élections législatives soient découplées de l'élection présidentielle en France. Mmh. C'est là-dessus, je pense qu'on peut, se mettre d'accord. Et peut-être que les seuls qui ne seraient pas d'accord seraient les grands partis politiques. Mmh. Mais en revanche, le pouvoir ne se limite pas à cela, évidemment. Il y a du pouvoir économique, il y a du pouvoir privé aussi, dans la sphère privée. Là, Samuel Hayat mentionnait le mouvement féministe. Le fait de dire que le privé est politique, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de faire de la politique lorsqu'on rentre chez soi, ça, c'est une idée absolument fondamentale. Mais en même temps, moi, j'ai entendu des témoignages de personnes, de gilets jaunes qui allaient sur les ronds-points et qui ont fait des témoignages très, très émouvants, d'une certaine manière, sur le type de politisation, y compris de leur vie personnelle. Ouais. Alors qu'une dame disait, j'avais jamais invité de personne chez moi et on a fait des réunions politiques dans mon appartement, ce qui est un peu le béaba de n'importe quel militant de gauche ou de droite d'ailleurs. Et tout à coup, citoyens ordinaires, d'une certaine manière, se mettent à faire de la politique. Et quand on commence à faire des réunions dans sa cuisine ou dans son salon, il y a toute une série d'autres choses qui changent, évidemment. Ouais. C'est pas simplement de questionner si on doit mettre en place un référendum d'initiative citoyenne ou non. Donc là-dessus, je pense que le mouvement est ambivalent, bien évidemment. C'est-à-dire ça peut aller dans des directions très différentes, mais il y a des choses qui sont très intéressantes. Et disons, tout mouvement de politisation sur cette forme-là est intéressante. Moi, ce que j'observe quand même, c'est qu'une partie des... pas des leçons, mais toute cette histoire dont on a parlé depuis deux siècles ou 250 ans, est une histoire qui parfois est un peu mise à la poubelle un peu trop rapidement. C'est ce que je disais au début sur le fait d'une vision anhistorique de la démocratie. Et il faut bien être conscient à la fois des échecs, mais aussi des succès. C'est-à-dire, lorsque je disais qu'il y avait une démocratisation, c'est aussi une histoire de victoire, l'histoire des deux derniers siècles. Et il faut pas les mettre de côté, il faut comprendre aussi comment ces victoires ont pu être obtenues petit à petit, toujours de manière impure, évidemment, puisqu'on vise plus loin que ce qu'on obtient véritablement. Ouais. Mais il y a des succès. Cette histoire de succès, il faut absolument la rappeler, d'une certaine manière. Moi, dans la phrase « nous ne vivons pas en démocratie », j'entends une mise à l'écart ou un oubli ou une cécité face à cette histoire de succès.
Mmh. Il y a quelque chose qui est à la fois entièrement nécessaire à un mouvement révolutionnaire, quel qu'il soit, qui est de se dire qu'il est en train d'inaugurer quelque chose d'absolument nouveau. Et en même temps, quelque chose, cette même chose qui permet de donner ce souffle révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que si on vit quelque chose d'entièrement nouveau, ça veut dire que tout le monde est invité à y prendre part, pas les personnes seulement qui héritent d'une histoire, etc. Et en même temps, c'est quelque chose qui bloque la remémoration, alors qui la bloque pas entièrement, qui bloque un peu l'histoire, qui la bloque pas entièrement. Et autant, je pense que, je suis d'accord avec vous, on n'a aucune leçon, c'est-à-dire que tout là, ce qu'on discute, c'est des choses qui sont tout à fait, peuvent relever tout à fait d'une sorte de sens commun que, à l'épreuve de l'action, les gilets jaunes se font. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de particulièrement plus intéressant ou plus de leçons dans ce qu'on dit que dans ce qu'ils vivent.
Ouais.
Mais le fait de bloquer le rapport à l'histoire et de se dire... on ne s'inscrit pas dans cette histoire. Et on en revient toujours à la même chose. Pourquoi on ne s'inscrit pas dans cette histoire ? Parce que c'est une histoire qui divise. Que la question de l'histoire du socialisme, peut-être qu'ils sont dans cette histoire de la République démocratique et sociale, mais c'est quelque chose qui divise. Qu'est-ce qui ne divise pas ? La résistance. Donc on dit, on est le nouveau programme du CNR, etc.
Ah, il dit ça ? Il y a eu cette formulation
ça veut dire « il ». Mais en tout cas, oui, il y a un mouvement parmi les myriades de mouvements qui s'inscrit dans la filiation de la résistance, qu'on trouve beaucoup chez les citoyennistes. Hein. Mmh. Là, quand je dis les citoyennistes, je veux dire les citoyennistes plus organisés, ceux autour de Chouard, d'Étienne Chouard ou d'autres, où la résistance est quelque chose qui est très valorisé. Ouais. Donc on s'inscrit dans une histoire qui ne fait pas conflit. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui bloque. Mais voilà, il y a d'autres moyens. J'aime bien cette idée de politique expérientielle. C'est quelque chose qui est notamment été très bien montré par un chercheur qui s'appelle Selim Smaoui à propos de Nuit Debout. Qui a montré comment dans Nuit Debout, alors le livre s'appelle, je crois, Des novices en politique, comment dans Nuit Debout arrivent des personnes qui n'ont jamais milité, et qu'au fond, qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est l'expérience. C'est uniquement la reconfiguration de l'expérience du monde qui se trouve modifiée. Et du coup, une des choses que dit Selim Smaoui à partir de l'expérience de Nuit Debout, c'est qu'une des principales modification dans l'expérience des gens, c'est la confrontation à l'État. Ouais. C'est la découverte du bras armé de l'État, la découverte de la police, de la part de personnes qui n'avaient pas forcément été confrontées de manière directe, contrairement aux habitants et aux habitantes des quartiers populaires, par exemple, et qui découvrent l'État, qui découvrent sa violence, qui découvrent sa volonté de contrôle sur l'espace géographique. Et là, ça renvoie à ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont les Gilets jaunes font une expérience qui certainement, dans une biographie, dans la trajectoire de quelqu'un, qui est une rupture.
Ouais. Antoine, vous vouliez intervenir sur la réaction justement de l'État ou du gouvernement, le type de propos ou d'actes qui sont...
Voilà, face aux demandes démocratiques, en réalité, je pense que le mouvement des Gilets jaunes a donné raison au livre de Francis Dupuy-Déry sur la peur du peuple. C'est-à-dire qu'on voit que chez les responsables politiques, il y a continuité entre le peuple assemblé politique et le peuple émeutier, c'est-à-dire le peuple qui va venir fracasser les portes de ministères ou deux, trois autres choses. Et que c'est la raison pour laquelle il faut empêcher au peuple de s'assembler, puisque ça peut toujours dégénérer. Alors il y a toute une série d'exemples historiques, hein. On a plein d'exemples d'assemblées qui en effet ont dégénéré et qui ont fini en bagarre généralisée, où tout à coup la foule se dirige vers une maison pour tout casser. Mais disons, ce sont des exceptions, bien évidemment, et le peuple assemblé, en général, au contraire, prend des décisions, y compris de manière très pacifique, après une longue et lente délibération. Mais c'est très, très frappant de voir cet imaginaire de ce qu'est le peuple, en réalité, chez les élites, il faut bien les appeler comme cela, et qui suscite une peur, voire une terreur, une peur panique de ce qu'il pourrait faire, pourrait être amené à faire. Et encore une fois, je citais la porte du ministère cassée. On a vraiment eu l'impression qu'on était, c'était Versailles, c'était 89, quoi. Enfin, on venait chercher le roi, puis on allait le mettre à la Concorde pour lui couper la tête. Ce qui n'était pas du tout le cas. Enfin, ils sont même pas entrés.
C'était un geste symbolique.
Voilà, ils ont cassé la porte, ils sont même pas entrés dans le bâtiment du ministère, sauf erreur.
Donc ça a permis de mobiliser tout ce que Dupuy-Déry appelle l'agoraphobie.
Absolument,
hein. Il emploie cette expression.
Série d'exemples d'agoraphobie qui sont vraiment très frappantes.
Très spectaculaires.
Et évidemment assez inquiétantes sur le degré de démocratisation du régime politique français.
Ouais.
Et ça, c'est évidemment pas... Pardon.
Vas-y.
Non, et ça, c'est vrai que c'est directement lié à la répression. Bon, il faut le dire et le redire, que c'est une répression inédite. On n'a jamais eu ces milliers d'arrestations, qu'on n'a jamais eu ces dizaines de personnes mutilées et ces centaines de condamnations. Donc c'est lié avec cette répression extrêmement visible et spectaculaire, et puis avec une répression moins visible, mais qui est celle de la destruction du cœur du mouvement, qui sont les ronds-points. C'est-à-dire de dire qu'à un moment donné, le pouvoir a tellement peur que le peuple, non pas même vienne à Paris être émeutier, mais juste se rencontre, s'assemble et délibère, qu'à partir de mi-décembre, il devient une priorité qui est répercutée à toutes les préfectures, il faut détruire les ronds-points.
Évacuer les ronds-points.
effectivement, il faut évacuer les ronds-points. Ouais. C'est-à-dire que ce ferment de démocratie qui est cette récupération de lieux où, dans des endroits où il y a peu de lieux de réunion, cette récupération ad hoc d'un lieu de réunion. Et là, vraiment, on est dans le pouvoir antidémocratique, on est dans l'agoraphobie complète, et on est dans une volonté froide de destruction de ce qu'il pourrait y avoir d'émancipateur pour des gens qui ont été très loin de la politique. Mmh. C'est vrai que c'est difficile après ça de croire que les personnes au pouvoir ont un intérêt à ce que les citoyens et les citoyennes s'intéressent à la politique. C'est faux.
Ouais.
Dès qu'il y a des moments où ils s'y intéressent, y compris dans les formes éminemment pacifiques et délibératives que sont les ronds-points, on a une destruction dès qu'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans les cadres dont on parlait au début de la politique partisane.
Ouais. Alors, question un peu difficile, est-ce qu'il faut analyser le grand week-end qu'on vient de vivre là autour du thème de l'antisémitisme réel ou supposé des Gilets jaunes et dans quelle proportion? Est-ce que ça relève d'une stratégie agoraphobe de la part des élites, de construire quelque chose qui serait anecdotique et de le construire en figure tout à fait représentative de l'identité des Gilets jaunes, hein? BHL signe un papier qui dit l'antisémitisme est au cœur du mouvement des Gilets jaunes. Donc, stratégie agoraphobe de disqualification du mouvement par la transformation d'un élément anecdotique en principe structurant, ou bien il y aurait vraiment une préoccupation à avoir autour de la question de l'antisémitisme à l'intérieur des Gilets jaunes qui serait insuffisamment vigilant sur ces questions-là du fait de cette espèce de grand accueil citoyenniste qu'on réserve à toutes les options, les positions. Voilà. Donc, comment analyser le week-end où on a été tympanisé là, sur la question de l'antisémitisme? Est-ce que c'est à nouveau une stratégie du pouvoir ou bien il y a un problème politique sérieux à embrasser? Pas si vous avez envie de vous lancer dans cette question.
Pour... Moi, je peux, oui. Mais...
Antoine. Bon,
sur cette question, ce que je dirais, c'est qu'il y a en même temps, il y a des mouvements antisémites très actifs, en particulier sur Internet, depuis plusieurs années en France, et qui ont fait remonter d'une certaine manière, et qui ont remis sur le devant de la scène toute une série de thématiques antisémites traditionnelles. On pense évidemment à Égalité et Réconciliation et à Alain Soral. Mais qui a réédité toute une série de pamphlets antisémites, etc. On revoit les protocoles des sages de Sion qui circulent d'une manière ou d'une autre. Et donc il y a évidemment une inquiétude à avoir. Et en particulier une inquiétude, pas simplement parce qu'on est contre l'antisémitisme, mais aussi parce que l'antisémitisme est toujours un mouvement antidémocratique. C'est-à-dire qu'il y a convergence de ces deux choses, de la même manière que l'antisémitisme est toujours un mouvement raciste, et etc. C'est Frantz Fanon qui rappelait la parole d'un de ses professeurs qui disait « Lorsque vous entendez un antisémite dresser l'oreille, il y a toujours un négrophobe derrière. » Et donc il faut être extrêmement, extrêmement sensible et attentif à cette chose-là. Et en même temps, il ne faut pas oublier une autre leçon, c'est que l'antisémitisme n'est pas un mouvement spontané du peuple. Les populations ne sont pas par essence antisémites, parce que ça c'est quelque chose qu'on entend aussi de temps en temps, y compris dans les condamnations contre la démocratie directe, en disant « vous allez voir, on aura immédiatement des décisions de pogrom, etc. » Ce sont des mouvements antisémites, des opérateurs, des entrepreneurs antisémites, comme on parle d'entrepreneurs nationalistes, qui hystérisent des secteurs de la population sur ces thématiques et qui le font de manière souvent très efficace parce que ça permet de conjoindre à la fois une rhétorique raciste ou xénophobe à la fois face à l'extérieur et face à l'intérieur, puisque c'est toujours l'ennemi de l'intérieur, le juif, qui est là, mais en même temps pas tout à fait là, et en plus des thématiques dites anticapitalistes. Et ça, c'est la vieille figure de ces... Ben, c'est ce que disait Bebel, sauf erreur, hein, l'antisémitisme et le socialisme des imbéciles. C'est-à-dire, c'est des personnes qui interprètent le capitalisme sous sa forme uniquement financière en disant, regardez, en réalité, les juifs contrôlent la finance mondiale. Je note d'ailleurs à ce propos qu'il est très souvent rappelé qu'Emmanuel Macron est passé par la banque Rothschild, et c'est un mot de passe antisémite. On peut très bien dire qu'il était banquier, on s'en fout de savoir si c'était à Rothschild ou ailleurs. Et c'est un mot de passe qui est reconnu évidemment par toutes les personnes qui suivent ce type de rhétorique et qui veut dire derrière, bien sûr, que c'est pas n'importe quel... C'est la finance juive, etc. Donc je pense qu'il faut être extrêmement attentif à cela. J'ai vu des vidéos, mais encore une fois, qu'est-ce qu'elles valent, de réunions de gilets jaunes où il y avait des discours extrêmement clairs et fermes là-dessus, donc de refus de l'antisémitisme.
L'appel de Commercy, enfin les gilets jaunes de Commercy ont publié un texte de dénonciation de l'antisémitisme. Ils ont produit assez rapidement un texte très très bien remettant les choses au clair.
Et je pense donc qu'on n'est pas du tout dans un mouvement qui serait gangréné par l'antisémitisme, mais qu'il existe des éléments ou des personnes ou même des groupes plus ou moins organisés à l'intérieur des gilets jaunes qui développent ce type-là de rhétorique. C'est tout à fait possible. Et il faut être évidemment très attentif et contester ces positions.
Samuel Alliat.
Si vous voulez, y a, c'est jamais anecdotique quand il y a une prise à partie, alors antisémite ce week-end, mais aussi quand il y a des dénonciations de migrants, comme on a eu au
début
du mouvement
en décembre,
toute une série d'affaires, qui peuvent devenir affaires lorsque les médias s'en saisissent. C'est ça qui est embêtant, c'est que, c'est ça qui est embêtant, il faut dire deux choses. C'est normal, évidemment, qu'on parle médiatiquement lorsqu'il y a des en marge ou au cœur d'une manifestation de gilets jaunes, lorsqu'il y a des attaques racistes, antisémites ou d'autres types de haine qui s'expriment. Évidemment, pourquoi est-ce que à un moment donné, les médias s'en saisissent, le mettent plus en avant, etc. Bon, ça répond à toute une série d'impératifs de spectacularisation, aussi du fait que si le journal d'à côté en a parlé et que nous on n'en parle pas,
du coup on a l'air d'être complice,
on est complice, etc. Ouais. Donc ça, c'est des mécanismes qu'on voit systématiquement. Après, lorsque ça retombe, qu'est-ce qui reste? Il reste qu'il y a une prise à partie antisémite d'un polémiste lui-même, très largement, reprenant très largement des éléments fondamentaux d'une parole raciste.
Oui.
Pas du tout au nom d'un sionisme ou d'un truc, mais vraiment en défenseur de la francité blanche, qui est évidemment tout à fait problématique. Bon. Après, derrière ça, il y a la question de est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, on en parlait depuis tout à l'heure, dans cette création de consensus, est-ce qu'il y a quelque chose de plus, de plus grave, que simplement le fait de ne pas vouloir poser certaines questions? C'est-à-dire, c'est uniquement de l'ordre de l'hypothèse, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui, en lui-même, est plus accueillant, pas juste pour des gens qui votent à l'extrême droite, mais pour une série de paroles, pour une série de personnes qui pourraient avoir des paroles racistes ou antisémites? Et où là, j'ai envie de répondre non, très évidemment, mais ça ne va pas de soi. Pourquoi ça ne va pas de soi? Parce que lorsqu'il s'agit de mettre l'accent sur ce qui nous rassemble, sur ce qui est commun, on risque toujours de tomber dans ce que Jacques Rancière appelle le rassemblement haineux de l'un, c'est-à-dire on risque toujours d'arriver dans un moment où on se met d'accord entre nous aussi sur l'expulsion, on crée du commun aussi par l'expulsion de ce qui n'appartient pas à la communauté. Et le fait que dans les premières revendications des Gilets jaunes, dans la série de 42 revendications qui a été mise en place et qui a été quand même l'émanation d'un processus assez collectif, on trouve beaucoup de choses d'éléments de justice sociale. On trouve beaucoup de choses démocratiques, dont le référendum, mais pas uniquement. Mais on trouve aussi toute une série de revendications qui concerne les immigrés, qui ne consiste absolument pas à dire les immigrés dehors et qui, au fond, c'est pas plus radical que ce qu'il y a dans le programme de Macron, à savoir les immigrés clandestins, il faut les virer. Mais il faut se demander pourquoi est-ce qu'un mouvement comme ça a à dire il faut virer les immigrés clandestins. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire de dire une personne qui veut être française doit connaître l'histoire de France et doit parler la langue française? Qu'est-ce que ça veut dire dans une société qui est très largement multiculturelle, etc. Et là, à mon sens, on a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas juste dire « bon, c'est marginal, le fait qu'il y ait des éléments racistes, le fait qu'il y ait des éléments antisémites ». Évidemment, c'est marginal. Et heureusement que c'est marginal. Et le mouvement ne doit pas ni se sentir obligé d'en permanence se justifier, ni obligé en permanence de devenir un mouvement fondamentalement et avant tout anti-antisémite et antiraciste. Bon, ça n'arrivera pas. Mais il faut se demander, est-ce qu'il n'y a pas, au cœur de ce consensualisme, même si c'est un consensualisme qui est toujours temporaire, quelque chose qui pourrait relever
des prédispositions
à l'exclusion. À l'exclusion de ce qui ne fait pas partie, de ce qui ne semble pas faire partie de l'image qu'on se fait. Et de ce point de vue-là, voilà.
Vous soulignez dans votre premier papier sur les Gilets jaunes, sur l'économie morale,
Ouais. Mais en même temps, il faut mettre en avant le fait que ce n'est pas un mouvement qui exclut, par exemple, les Noirs et les Arabes. Ce n'est pas un mouvement qui se présente, et d'ailleurs, vous regardez dans la rue, c'est un mouvement qui est très majoritairement blanc, mais c'est le cas aussi des manifestations de gauche, et je pense pas que ça soit beaucoup plus blanc que Nuit debout ne l'était. Donc il s'agit pas de dire que c'est un mouvement qui exclut sur des bases racistes, mais
je reviens sur la recherche d'un nous dont on sait pas très bien s'il n'y a pas un E qui va petit à petit émerger.
Est-ce qu'il peut émerger, dans quelles circonstances, et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire dans une société raciste de ne pas poser la question de la race? Qu'est-ce que ça veut dire dans une société où existent des ferments importants d'antisémitisme de ne pas se poser, non pas juste d'être vigilant, mais de ne pas se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire et par quel canot est-ce que ça passe? C'est toujours, mais là on a encore une fois pas de leçon à donner, parce que c'est des choses qu'on voit dans tous les milieux, qu'on voit dans tous les mouvements, qui n'est pas une spécificité des Gilets jaunes, qui est un truc que vous allez trouver dans les plus hautes sphères du pouvoir, forts éléments racistes, des forts éléments antisémites, en tout cas un nous et un eux qui continue à exister dans toutes les sphères. Et c'est, voilà. Donc, ce n'est pas une spécificité de ce mouvement-là, ça, c'est sûr.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, tous les deux, d'avoir participé à cette discussion. J'espère qu'on vous aura aidé à dégrossir un petit peu quelques éléments d'analyse sur les revendications démocratiques des Gilets jaunes. Merci de nous avoir suivis. À très, très bientôt pour une prochaine émission sur Hors-Série. Salut.